et c'est le journal de Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le gouvernement britannique a rendu public des documents sur les conséquences d'un Brexit sans accord. Le rapport Opération Yellowhammer, tenu secret jusqu'ici, lève le voile sur les catastrophes qui pourraient arriver aux Britanniques dès leur sortie de l'Union le 31 octobre.
Et en France, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, est mis en examen depuis hier soir. Les juges d'instruction le soupçonnent de prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne.
Nous irons aux Bahamas dans ce journal lourdement touché par l'ouragan Dorian il y a 10 jours. L'archipel dévasté doit désormais se reconstruire malgré les pertes humaines et matérielles. Et dans une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, le journal Le Monde, comment préserver son indépendance éditoriale face aux actionnaires? Nous serons en compagnie de Raphaël Baquet, elle est grand reporter au quotidien Le Monde et elle a été élue au bureau de la Société des rédacteurs du journal.
Le rapport était tenu secret depuis plusieurs mois et à sa lecture, on en comprend les raisons. Le dossier Opération Yellowhammer, marteau jaune en français, a été rendu public au Royaume-Uni à la demande des députés à la Chambre des communes. Il dévoile un scénario catastrophe en cas de Brexit sans accord. Quelques extraits avaient fuité le mois dernier, Antoine Gignot, mais le rapport entier est très pessimiste sur les conséquences d'un divorce avec l'Union comme il se dessine.
C'est un scénario apocalyptique. Des embouteillages gigantesques, des camions bloqués pendant plus de 2 jours dans les ports, à la frontière, et un trafic sur les routes 2 fois plus lent que la normale. Le chaos total pendant au moins 3 mois, écrivent les experts, avec une disparition probable de certains médicaments comme ceux qui servent à traiter le diabète, impossible à stocker. Mais la pénurie risque aussi de s'étendre rapidement aux produits frais, avec des rayons vides dans les supermarchés et une augmentation générale des prix de la nourriture et de l'essence. Il y aura, d'après le rapport, des manifestations, des contre-manifestations, une augmentation des tensions communautaires, tensions inévitables aussi en Irlande du Nord. Certaines entreprises tenteront de tricher en passant la douane en douce, d'autres verront leurs coûts exploser. Le groupement des commerçants détaillants interpelle le gouvernement et réclame un accord rapide avec Bruxelles. Keir Starmer, chargé du dossier du Brexit chez les travaillistes, interpelle le Premier ministre. Boris Johnson, dit-il, doit admettre qu'il a été malhonnête.
Antoine Gignot. Et c'est justement pour éviter ces pagailles que causerait le no deal que la France organise aujourd'hui, une journée test qui aura lieu à Caen avant d'autres journées, devant le tunnel sous la Manche par exemple et dans les ports de Calais et de Dunkerque. La France se prépare elle aussi au pire des scénarios et ne veut pas se laisser surprendre, Louise Baudet. Hier, les 26 ambassadeurs des pays européens ont été reçus au Quai d'Orsay pour une préparation technique au Brexit dur.
Des parkings géants pour organiser les files d'attente, 600 douaniers supplémentaires, 200 experts vétérinaires. Et ce message aux ambassadeurs des États membres de l'UE, comme nous, préparez-vous et préparez vos PME au retour des barrières douanières, notamment à Calais, où 5 millions de camions passent chaque année la frontière. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt.
80% des marchandises qui traversent la frontière entre le Royaume-Uni et la France ne sont pas des marchandises françaises. Si sur un même véhicule, une partie de la marchandise a fait l'objet d'un dédouanement anticipé, mais que l'autre partie n'a pas fait l'objet de ce dédouanement, c'est bien évidemment tout le véhicule qui est ralenti à l'occasion du passage de la frontière et les efforts des uns deviennent vains du fait de l'absence d'anticipation des autres.
Éviter le chaos technique et envoyer un message politique. La secrétaire d'État aux affaires européennes Amélie de Montchalin prévient, pas question de laisser les Britanniques diviser les Européens.
Nous voyons que les Britanniques essayent par des moyens plus ou moins détournés de signer des accords bilatéraux, des mini-deals avec chacun d'entre nous. C'est totalement contraire à l'esprit dans lequel nous négocions. Est-ce que nous sommes prêts à écouter les propositions des Britanniques? Totalement. Est-ce que les Britanniques nous ont fait des propositions à ce stade sur ce qu'ils souhaiteraient qu'il se passe? Pas vraiment. Comme nous n'avons pas de proposition concrète sur la table, notre responsabilité, c'est de nous préparer.
Prêt pour un no deal, pas pour un nouveau report inutile. Message martelé en France, pendant qu'en Allemagne, Angela Merkel croit encore à un accord. Les 27 plus ou moins conciliants donc, mais de moins en moins patients face à un brouillard britannique qui n'en finit plus de s'épaissir.
Louise Baudet, brouillard qui s'épaissit également autour de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, est mis en examen depuis hier soir dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. Il est soupçonné d'avoir profité de sa position de directeur général de ces mutuelles pour aider sa compagne à acquérir un bien immobilier à Brest. Un dossier qui l'a déjà contraint à quitter le gouvernement il y a 2 ans, Stéphane Peyre, et qui le rattrape désormais.
Il y a 2 ans, il se disait blanchi, il avait de tout soupçon. Ce matin, Richard Ferrand se retrouve mis en examen et l'objet au contraire des soupçons de 3 juges d'instruction lillois. Durant plus de 12 heures, le 4e personnage de l'État a été interrogé et s'est expliqué sur son rôle dans une transaction immobilière datant de 2011 impliquant sa compagne, l'avocate brestoise Sandrine Doucin. À l'époque, Richard Ferrand est le puissant directeur général des Mutuelles de Bretagne, un organisme sans but lucratif. Question, Richard Ferrand a-t-il profité de sa fonction pour favoriser sa compagne à financer l'achat de locaux de 400 mètres carrés au cœur de Brest pour près de 400 000 euros et faire financer des travaux à hauteur de 184 000 euros par les Mutuelles de Bretagne? Tout cela sans débourser un sou grâce au loyer versé à sa compagne par les Mutuelles dont il était le patron. Après un premier classement sans suite à Brest et l'ouverture début 2018 d'une nouvelle enquête à Paris, l'affaire initiée par l'association Anticor a été dépaysée à Lille. Un éloignement demandé par les avocats de Richard Ferrand, mais qui ne lui a finalement pas épargné sa mise en examen dans ce dossier.
Précision de Stéphane Peyre et réaction ce matin du président du groupe LREM à l'Assemblée. Richard Ferrand doit rester dans ses fonctions, affirme Gilles Legendre, le président de l'Assemblée qui affirmait hier vouloir poursuivre sa mission au perchoir à l'Assemblée. Et hier, deux autres anciens ministres ont été entendus par la police, cette fois François Bayrou et Marielle de Sarnez, cette fois dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif des assistants du Modem au Parlement européen. Tous deux ont été entendus sous le régime de l'audition libre. Le gouvernement, lui, souhaite se mobiliser contre les agressions de maires. 361 ont été recensées l'an passé, un chiffre en augmentation de 4% sur un an. Le ministre en charge des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, doit rencontrer une dizaine d'élus victimes aujourd'hui afin de discuter de solutions concrètes. Autre violence dans les mairies, plus symbolique celle-ci, le décrochage des portraits d'Emmanuel Macron par plusieurs militants écologistes. 8 d'entre eux étaient convoqués hier devant le tribunal correctionnel pour vol en réunion. Un vidéaste est également poursuivi. Le procureur a requis des peines d'amende, Antoine Maret, 1000 euros, dont 500 avec sursis.
C'est le cas de Vincent Verza qui retient particulièrement l'attention du procureur. Ce prévenu se dit journaliste militant, mais le procureur le perçoit plutôt comme un activiste. La preuve, on le voit sur une photo déployer une banderole lors de l'une des actions. « J'ai tiré la banderole pour la défroisser et faire une image », corrige l'intéressé. En ce qui concerne les 8 autres prévenus, ils allèguent de l'efficacité politique d'un comportement délictueux, ironise le procureur. Mais soyons sérieux, le vol d'un portrait va-t-il modifier la politique gouvernementale ou influencer l'opinion publique, fait-il mine de s'interroger. À ces réquisitions, l'avocat de la défense, maître Alexandre Faro, rétorque l'absolue nécessité de la désobéissance civile au nom de l'urgence climatique.
Aujourd'hui, la démocratie est en crise. Et l'une des manières de relancer la démocratie, c'est par plus de démocratie. Ça, c'est la proposition, en tout cas, que faisait Winston Churchill. Quand on lui demandait comment est-ce qu'on défend la démocratie, sa réponse était par plus de démocratie. Et plus de démocratie, ça signifie que des tribunaux soient capables de reconnaître la légitimité d'une action de désobéissance civile pourvu qu'elle soit pacifique.
La défense ajoute que les prévenus n'ont pas agi dans leur intérêt mais dans celui de la société, dans le but de rappeler à l'ordre le pouvoir, sans aucune menace ni aucune violence.
Explication d'Antoine Maret. La Banque Centrale Européenne se réunit aujourd'hui pour tenter de relancer l'économie dans la zone euro. Plusieurs mesures fortes pourraient être annoncées, notamment une nouvelle baisse des taux directeurs ou encore un rachat de certaines dettes publiques. La zone euro qui regarde avec intérêt les chiffres de la croissance, notamment en Allemagne. Le pays pourrait tomber en récession après plusieurs mois de baisse du PIB. Des mauvais chiffres dus en partie à un secteur automobile en crise outre-Rhin. C'est dans ce contexte morose que s'ouvre le salon de l'automobile à Francfort. Il est marqué cette année par la multiplication des modèles électriques, des véhicules qui ne produisent pas de CO2, mais qui ne sont pas pour autant non polluants, explique Jean Thévenon. Il est en charge des questions transport chez France Nature Environnement.
Le véhicule électrique a son domaine de pertinence, qui doit être soigneusement délimité en analyse du cycle de vie. Il y a des choses, le véhicule électrique est très intéressant en matière d'autopartage, par exemple en centre-ville, parce qu'il est beaucoup utilisé, au lieu de passer 95% de son temps à l'arrêt, ce qui est le cas de la moyenne des véhicules particuliers, c'est un véhicule qui peut être utilisé 20, 30, 40% du temps, et là on devient pertinent. Mais remplacer une personne dans un véhicule thermique par une personne dans un véhicule électrique, ça n'a pas grand intérêt, et c'est un gain environnemental absolument nul, voire négatif. On a quand même quelques soucis avec les centrales nucléaires, leur analyse. Leur cycle de vie n'est pas maîtrisé. On n'a pas encore les idées bien claires du tout, même sur leur démantèlement ou sur le recyclage des déchets. Au lieu de mettre le paquet sur les énergies renouvelables, qu'elles soient solaires, éoliennes ou maritimes. Par contre, on est encore, aujourd'hui, on n'a aucune vision à quelle date on atteindra une échelle industrielle pour le démantèlement et le recyclage des matériaux des batteries.
Jean Thévenon de France Nature Environnement avec Hakim Kasmi. La voiture électrique, ce sera d'ailleurs l'objet du reportage de la rédaction d'ici un quart d'heure. Retournons désormais aux Bahamas, 10 jours après le passage de l'ouragan Dorian. Les vents ont pu atteindre, vous le savez, 325 km/h. Les dégâts matériels sont très considérables et les autorités craignent également des pertes humaines en grand nombre. Pour l'instant, le bilan officiel fait état de 50 morts, mais plus de 2500 personnes sont toujours portées disparues. Chaque jour, des corps sont retrouvés. Thibault Lefebvre s'est rendu dans le quartier du Mud à Marcharbourg, au nord de l'archipel.
D pour Dead, une lettre majuscule inscrite en orange fluo sur un large morceau blanc de tôle froissée et une flèche qui indique l'emplacement 100 mètres plus loin du corps d'une femme. Des poutres et des panneaux de bois dissimulent son visage, mais laissent apparaître un ventre gonflé.
De toute évidence, elle était enceinte. Je ne sais pas de combien, mais oui, sans aucun doute, elle était enceinte.
Michael Johnson, soldat de l'armée bahaméenne, est arrivé il y a une semaine sur l'île d'Abaco.
Ce sont des membres de la communauté haïtienne. La plupart des maisons ont été construites en bois. Quand l'ouragan est arrivé, il a tout détruit. Tous les gens qui sont restés ici ont été tués.
Des corps gisant depuis 10 jours sous les décombres, laissés à l'abandon par des équipes de sauveteurs qui semblent complètement dépassés par l'ampleur de la tâche.
Il y a suffisamment de troupes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits détruits, beaucoup de corps un peu partout. Les groupes d'haïtiens sont nombreux. Ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a aussi une autre île qui a été touchée, Grand Bahama. Et les militaires et les forces de l'ordre ont dû se répartir, c'est pour ça.
Des renforts sont arrivés hier à Abaco. 250 militaires allemands, néerlandais et français chargés d'appuyer les actions de l'armée bahaméenne.
Le reportage de Thibault Lefebvre. Le temps de ce jeudi, c'est une France coupée en deux par une diagonale qui va des Pays de la Loire jusqu'à la Lorraine. Au nord, de la pluie. Au sud, un très beau soleil. Les minimales ce matin de 8 à 12 degrés en moyenne, de 20 à 24 degrés cet après-midi.